bord desquels il était assis. Alors, j'ai des belles citations, mais je ne sais pas si vous les trouverez dans le catalogue. Je pense que je ne vais pas vous embêter avec ça. Mais en tout cas, c'est vraiment au bord de ce bassin que son regard a changé, qu'il a appris à regarder longtemps et profondément, et qu'il a compris, parce que pour lui, il fallait vraiment comprendre et vivre ces instants pour pouvoir les reformuler. Et face à lui, vous avez dans cette salle au rez-de-chaussée, vous avez Jacques Trufenus, Malgorzata Pashko, et puis Émile Keller. Alors, l'effet Monet, en fait, il s'est poursuivi selon trois approches essentielles qui ont été d'ailleurs validées par Pierre Vatte et qui, sur l'idée de Michael Baxandal. En fait, Monet n'est pas une influence pour ces artistes. Il ne s'agit pas d'influence, mais vraiment de ressources. Et donc, la ressource Monet, elle se produit comment sur ces artistes? Essentiellement par trois approches, soit par la citation, c'est vraiment, vous voyez directement un lien à l'œil nu. Alors évidemment, on a Trufenus, là on n'a pas de doute. On a une citation qui peut être un petit peu... qu'on peut comprendre aussi avec Malgorzata Pashko, qui est ensuite, mais sous un autre mode, c'est-à-dire qu'avec Malgorzata Pashko, mais on parlera dans sa salle, de la reprise qu'il peut y avoir de certaines thématiques de Monet. Et on a aussi une deuxième approche, c'est l'allusion. Alors l'allusion, ça peut être l'allusion par Émile Keller, par exemple. Émile Keller, que vous découvrirez derrière, en fait, elle a plutôt extrait la substantifique moelle de l'œuvre de Monet, c'est la démarche intellectuelle de l'œuvre de Monet, puisqu'elle poursuit les nymphéas, mais d'une autre manière. Et puis, vous avez Charlotte de Maupoux, qui est là aussi, qui sera à l'étage, elle est aussi dans l'allusion, dans son attitude, dans la même attitude que Claude Monet. Chacun prend quelque chose, mais c'est un lien indirect. Et la troisième approche pour ces artistes, c'est le compagnonnage secret, c'est-à-dire qu'il y a un lien qui est invisible, qu'on sent bien. Il n'aurait pas pu peindre comme ça avant Monet, mais il est un petit peu, enfin en tout cas il est à découvrir, et on le comprend dans la démarche, dans la liberté que Monet a offerte à ces artistes d'aujourd'hui, en leur ouvrant des possibles, sans vouloir absolument être un maître ou quoi que ce soit, mais en tout cas, il a ouvert ses possibles en offrant aussi ses œuvres, les grandes décorations à l'État français. Et ensuite, on verra à l'étage plutôt ce lien, ce compagnonnage secret avec les autres artistes qui suivent. Voilà, alors donc, Jacques Trufenus, je ne sais pas si tout le monde le connaît ici, il est né en... 1922, c'était un peintre qui était de Grenoble au départ, et il est décédé en 2017, mais il avait eu sa première rétrospective ici hier, dans l'affaire Mornay d'ailleurs, et je suis contente qu'il soit là à côté de Monet, d'autant plus que son travail, il a vraiment commencé en arpentant les paysages du Dauphiné dans sa tendre enfance avec son père. Et puis, en voyant aussi, avant de toute formation aux Beaux-Arts, en voyant les tableaux de Monet, parce qu'au musée de Grenoble, où il a vécu longtemps, il y a ce coin de l'étang de Giverny qui est absolument formidable et qui rappelle aussi son travail d'aujourd'hui, et puis le sol derrière, et que Monet avait donné en 1923 au conservateur de l'époque, qui était André Farcy, parce qu'en fait, il considérait, ce conservateur considérait qu'il n'y avait pas assez d'œuvres d'art moderne dans son... Et donc Monet a fait ce don, un peu en rechignant quand même, mais le tableau est magnifique, et il a vraiment formé le regard de Trufenus, et qui disait tout le temps que c'était un géant, voilà. Donc l'affiliation, elle se voit à l'œil nu. Jacques Trufenus, il a continué, alors après, il a travaillé beaucoup entre figuration et abstraction, et il était à Lyon, après ses études aux Beaux-Arts de Lyon, il s'est installé avec sa femme Aimée Laurence, et il est resté toute sa vie dans le même atelier, à deux rues près, enfin il avait un périmètre très 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 court, mais qu'il faisait régulièrement. Et puis, il n'a jamais voulu quitter sa ville. Et avec de rares incursions quand même, à partir des années 80-90, dans son atelier des Cévennes, c'est au Vigan, c'est là qu'il a réalisé ses œuvres, les ateliers dans les Cévennes, la terrasse à Covala, là aussi une terrasse à Covala, toujours ce monde de végétation absolue où il peignait vraiment avec beaucoup de jubilation. Mais lui-même avait besoin de s'immerger dans ce paysage pour revenir ensuite à son atelier, parce qu'il ne peint pas du tout en plein air, Jacques Truffaut, mais il peignait vraiment en atelier. Mais après avoir vécu ça et être resté souvent seul, malheureusement il est devenu veuf assez tôt, enfin 20 ans avant son décès, et donc il allait continuer à peindre cette terrasse, ces végétations qui étaient vraiment au bord de ça. Très peu de gens étaient invités à visiter cet atelier. Moi, j'ai eu la chance d'y passer, mais vraiment, la végétation était juste au bord des fenêtres et on arrivait, on était sur les arbres. Et donc, voilà, il a, comme Monet, il s'est vraiment imprégné du paysage et il nous l'a bien rendu de cette manière-là. Il a été représenté après par la Galerie Côte-Bernard à partir des années 2000 et c'est ce qui l'a fait connaître aussi à l'international et qui l'a fait rentrer dans des collections prestigieuses. Mais son travail était vraiment empreint de poésie, de rêverie, enfin beaucoup d'intimité aussi qui faisait que voilà, on retrouve beaucoup de liens avec Monet. Alors, on peut passer d'abord à Malgorzata Pascoe avant d'arriver à... On va faire la